Façon d'exprimer son genre, j'imagine par sa façon d'habiller, s'habiller, malheureusement, en fait, c'est un peu des trucs que j'aime pas trop dire, mais...
Je mets des bijoux, etc., je pense comme genre fille, du coup.
Et voilà, donc je comprends ces codes, mais ce serait cool que ce soit pas des codes, quoi.
J'ai des tocs, un pantalon noir et une chemise, ça pourrait être fille ou garçon.
Raison de genre, ça passe peut-être aussi par le comportement qu'on peut avoir.
J'ai juste quand même senti une différence sur les gens qui m'abordaient dans la soirée, dans la rue et tout ça.
Je me suis jamais posé la question, en fait, pour moi, personnellement.
Depuis aussi loin que je me souvienne, un questionnement a rythmé mon identité. Qu'est-ce qu'être une femme ? Quand petite fille, je jouais aux Barbie, j'en étais certaine. Quand pré-ado, on m'a dit d'arrêter d'avoir une posture masculine, les jambes écartées, j'ai eu mes premiers doutes. Quand ado, on a sexualisé mon corps tout en stigmatisant mes désirs, je me suis dit que c'était une arnaque. Est-ce qu'il ne s'agit que de ça, de rouge à lèvres, de quelques centimètres en moins à son short, de l'ajustement du t-shirt, être délicate dans ses gestes, parler bas, se dire « elle » ? Autant dire que je trouve cela plutôt absurde et qu'il ne s'agit que de marqueurs. Dans cet épisode, je suis contente de partager avec vous mes questionnements sur ce qu'est le genre, quel lien ou pas avec l'identité de genre et ses impacts en termes de discrimination. Comment rend-on visible son genre et quelles implications sur notre comportement et celui d'autrui ? Amphi25, c'est une volonté de créer une safe place à l'université, un espace pour échanger, réfléchir et offrir des ressources aux personnes qui en ont besoin. Je m'appelle Taïmé, je fais partie de la mission Égalité-Diversité de l'Université Lyon 1. Et dans ce nouvel épisode, on va investir la sphère de l'expression de genre. Stéphanie Kühner, autrice et maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication, va nous donner des clés pour analyser le genre grâce à la sémiologie, la science des signes. Le conteur sans histoire, drag king du collectif lyonnais Les Kings Sauvages, va nous expliquer ce qu'est le drag et l'expérience d'exploration du genre qu'il permet. Mais pour commencer, écoutez l'histoire de Léo et son cheminement par rapport aux normes de genre. Léo est non-binaire et a fait des études de sport. C'est à ce moment-là que les normes de genre féminines lui ont pesé.
Bah, ça passe par tout un tas de trucs, par exemple les tenues. Au niveau, enfin, la plupart des meufs là-bas sont en leggings. Au niveau des poils, par exemple, il n'y avait aucune personne quand j'étais en licence, en tout cas, avec des poils, ou en tout cas, je les voyais pas. Et moi, c'est vrai que mes poils, par exemple, ça, je les ai gardés à partir de ma troisième année, et je pense que j'étais l'une des seules personnes. Et pourtant, je les montrais, et du coup, je me disais peut-être que si en les montrant, il y aura d'autres personnes qui vont se dire, ah, allez, on y va. Mais, non, ça a pas pris. Et après, le truc des performances qu'on attend de toi, qui sont différentes. Et tout ce qui est formation des équipes, quand tu fais des sports co, on va former des équipes. À chaque fois, ouais, justifier la mixité, mais pour un rapport de force égalitaire. Et du coup, cette justification me posait problème. Du coup, moi, j'avais fait énormément de danse. Et quand je suis arrivée en STAPS, je voulais pas du tout aller en danse. Mais il fallait que je choisisse une spécialité et je suis partie en volley où j'avais l'impression que c'était un peu un sport, c'était vraiment un sport qui me parlait et c'était un sport plutôt neutre, moins très connoté féminin ou masculin. Et du coup, c'est pour ça que je suis allée là-bas parce qu'en fait, je voulais pas me retrouver dans une sorte d'entre-soi entre meufs qui d'un côté était un espace plus safe par rapport aux normes, par rapport aux hommes qui dominaient dans tout plein d'autres sports. Et du coup, ça peut être un cadre sécuritaire et plus agréable et tu te sentir un peu par rapport aux normes de féminité, par exemple, on va pas sans cesse te rappeler que t'es sexualisée, que je sais pas, ton legging est transparent, enfin, on en a rien à faire, quoi. ou que tu transpires, enfin, des trucs à la con. Mais en même temps, ça me gênait cet entre-soi meuf. Bah, c'était très féminin, et bah, par exemple, tu vois, les poils, c'est pas possible, mais il y en a pas du tout, quoi. Et c'est, il y a beaucoup de maquillage, et tout le monde a les cheveux longs, et la plupart des costumes que tu peux avoir, ça va être des costumes très moulants, enfin, du coup, ça amène pas trop de diversité, quoi, au sein d'un groupe de danse. C'est, je pense, une partie de ma vie où j'ai rejeté beaucoup de féminité, où j'arrêtais de me maquiller. Ça me saoulait de me coiffer. J'avais les cheveux longs, mais je faisais que les attacher parce que je trouvais ça super chiant. Je favorisais potentiellement des tenues où je me sentais pas forcément sexualisée. Bah déjà, à partir du moment où je me suis coupée les cheveux, donc là, c'était l'année dernière, où dans la rue, je sentais que je pouvais un peu générer le trouble chez les gens. Et du coup, ça me permettait d'être plus souple sur des trucs féminins que j'aimais bien, mais auxquels j'arrivais plus du tout à utiliser dans mon expression de genre, par exemple, parce que ça me renvoyait à tout un truc de meuf sexualisée, nan. Et en plus, donc, le fait de m'identifier d'avoir un autre terme pour m'identifier que meuf ou femme, ça a aidé aussi. Et du coup, ça fait un an que je suis beaucoup, enfin, moi, je me trouve beaucoup plus féminine que je ne pouvais l'être. Et je suis beaucoup plus à l'aise avec ces manières d'exprimer un côté féminin, quoi. Enfin, j'ai eu un peu du mal au début avec le terme non-binaire. Mais en tout cas, je m'identifiais plus en tant que meuf. Et du coup, oui, pour moi, mon expression de genre, c'est, on va dire, un outil, enfin, ouais, un moyen que j'utilise pour qu'on me considère telle que je suis. Mais ça l'est pas pour tout le monde. Je suis pas out auprès de mes parents sur mes questions d'identité de genre. D'abord, il y a eu la question des poils. Donc déjà, ça, ils avaient beaucoup de mal parce que j'ai quand même une pilosité importante. Et du coup, quand je me suis coupé les cheveux, alors là, c'était encore une étape supplémentaire. Et du coup, j'avais vraiment l'impression que ouais, ça leur posait problème, ou dans le sens où ils comprenaient pas pourquoi est-ce que je faisais ça, enfin que je fais ça. Après, il y avait dans les contextes professionnels. Enfin, je suis dans plein de sphères différentes au niveau professionnel. Et des sphères où c'est plus souple, où je suis plus avec des jeunes et des enfants. Là, je m'en fous à la limite, mais plus avec des personnes de 40 ans, 50 ans, quand je travaille au siège et dans les bureaux. Là, je ne vais jamais mettre de short ou de débardeur. Enfin, je ne vais pas montrer mes poils, quoi. Au niveau de la tenue aussi, je sais que il y a certains habits que je vais pas du tout porter. Je saurais pas trop expliquer pourquoi, mais que en tout cas, ouais, je fais le choix de pas porter au travail. Brouiller les codes de genre, pour moi, du coup, bah, ça passe par jouer avec des codes très extrêmes parfois, ou moins. Par exemple, si j'ai un t-shirt super large acheté dans un rayon homme, par exemple, je serais à l'aise avec le fait de mettre, par exemple, un short qui ressemble à un cycliste. Donc, il y a un short noir très moulant. Et je serais à l'aise dans cette tenue-là, mais par exemple, je pourrais pas mettre un crop top. Alors qu'à l'inverse, je pourrais mettre un crop top avec un bas beaucoup plus large et pas très féminin, quoi. Du coup, ça va être essayer d'associer sans cesse des trucs comme ça. Enfin, il y a toujours des côtés féminins que j'apprécie. J'ai jamais, du coup, cherché à avoir trop un passing d'homme dans la société, même si je suis plutôt en joie quand on me prend pour un homme. Le fait que les gens t'identifient dans notre société binaire comme homme ou comme femme. Genre la boulangère qui va venir te voir et qui dit « Bonjour, jeune homme, qu'est-ce que vous voulez pour... qu'est-ce que je vous sers ?» Et là, t'es en mode « Ça me fait sentir plus libre et j'ai un peu l'impression du coup que c'est un côté... ça a un côté militant aussi de se montrer de cette manière dans des espaces non dédiés, on va dire, enfin, où tu sais que ça peut t'exposer à de la violence, mais en même temps, bah, tu sais que ça peut aussi changer, enfin, ouais, perturber les gens et se dire, ah, ok, ah, ouais, pourquoi pas. Mais du coup, ça peut aussi t'exposer à plus de violence. Et ça, j'en ai conscience. Donc, si le frein, c'est le risque de violence, je dirais, entoure-toi de personnes. Et parle-en, enfin, si t'as peur, justement, si tu te sens vulnérable à certains moments, il faut le dire aux personnes qui t'entourent, quoi, en mode, ah, là, j'ai l'impression qu'on me regarde super mal et tout.
Léo n'est pas conforme à son genre assigné à la naissance. Et Yael en a souffert dans sa vie familiale, dans sa scolarité. Mais ça lui a aussi permis de s'émanciper à travers son expression de genre. Stéphanie Kuhner, chercheuse en sciences de l'information et de la communication, travaille sur la manière dont se construit le genre dans les dispositifs médiatiques. Elle va commencer par introduire le concept de genre.
Il y a plein de manières de l'aborder, de le définir, et puis ça va dépendre aussi des contextes. Donc on peut commencer par dire que c'est un concept. Ce qui veut dire que c'est un outil pour la pensée, qui plus est un outil critique. C'est-à-dire qu'il permet une pensée réflexive et critique sur la société. Le concept émerge aux États-Unis avec le terme de gender. La France a résisté à l'utiliser pour exprimer l'idée qu'il y a derrière le concept. On utilisait notamment le terme de rapports sociaux de sexe pour montrer qu'il y a des groupes sociaux qui sont construits de manière binaire, avec les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, et qu'il y a un rapport de pouvoir et une dissymétrie. Il y a une définition a minima du concept de genre où on dit le genre, c'est le sexe social. C'est-à-dire qu'il y aurait un sexe biologique qui serait observé à la naissance, puis après on dirait c'est un garçon, c'est une fille, et de là découlerait un ensemble d'assignations. Les filles, c'est plus sensible, les garçons, ça pleure pas. Les filles, ça porte du rose, les garçons, du bleu. Bon, je schématise, hein. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et ça, ce serait le sexe social. Sauf qu'on a des chercheuses et des chercheurs, mais notamment Anne Fausto-Sterling, qui est biologiste, une biologiste américaine, qui a montré que même la catégorie de sexe en biologie était une forme de construction culturelle. Puisqu'en fait, les biologistes souvent travaillent avec une perspective qui est ethnocentré, avec un regard sur le vivant, donc le monde organique, le monde animal, le monde végétal, qui se fait au prisme de notre propre perception de la reproduction, de la sexuation. Il y a plein d'espèces animales, végétales, qui sont pas binairement sexuées. D'accord? Donc même la notion de sexe biologique, en fait, c'est une construction. Alors, après, la définition sociologique a minima du concept de genre, c'est une bicatégorisation de deux groupes ou de deux classes sociales qui vont être hiérarchisées dans un rapport de pouvoir qui est en défaveur de la classe des femmes.
Et du coup, ça passe par des codes de genre et des stéréotypes?
Oui, alors la notion de code et de stéréotype, c'est forcément lié. En fait, ce concept de stéréotype, il nous permet de penser la manière dont on catégorise le monde social. Et on en a besoin, entre guillemets, pour fonctionner d'un point de vue cognitif. Mais de la même manière que quand on cuisine, on a besoin de catégoriser les aliments, les gras, les solides, les liquides, le sec, le frais, vous voyez, enfin. Et donc, en société, on va de manière assez systématique catégoriser en termes de tranche d'âge, de genre, de... Et ça se fait, c'est un processus cognitif auquel on n'est pas forcément attentif ou attentive. À chaque instant, dans nos interactions sociales, on se positionne par rapport à l'autre en fonction de ce qu'on perçoit de sa place dans la société. Et donc, ça oriente... après, on passe du stéréotype au préjugé, qui sont liés, hein, le stéréotype oriente le préjugé. Le préjugé, ça va déterminer mon attitude vis-à-vis de l'autre et du groupe social auquel je le rattache. Et après, il y a la discrimination. Donc, se comporter comme si la personne était stupide. Voilà.
Dans le cas du genre, quel type de discrimination ça peut entraîner ?
Le sexisme et le patriarcat, in fine, ça coûte à tout le monde. Moi, je suis sémiologue, c'est-à-dire que je travaille sur les contenus médiatiques, les images médiatiques, dans une démarche qui est qu'on appelle la sémiologie, qui est l'étude des signes au sein de la vie sociale. Et en fait, si on considère le genre comme un langage, C'est-à-dire qu'il y a des signifiants et des signifiés qui sont articulés. Donc, je vais prendre un exemple très basique. Je vais dire cheveux longs égalerait fille. Donc, le signifiant, ce serait les cheveux longs. Le signifié, ce serait le genre féminin. On peut considérer que c'est des codes esthétiques qui sont connotés au féminin, si bien que si une personne assignée homme va porter ces codes-là, il y aura une sanction sociale. Ça va aller de la violence symbolique, de la moquerie, jusqu'à la violence physique. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de codes de genre, c'est qu'il y a toute une série de signifiants qui sont à la fois dans la langue. C'est pour ça qu'on défend notamment une langue qui serait moins sexiste, une langue qui serait plus inclusive ou moins discriminante. Le genre s'exprime aussi dans le vêtement, qui est aussi un code, puisque dans le vêtement, il y a des signifiants et des signifiés. Le genre s'exprime à travers plein de codes, en fait. Donc c'est un langage, si on considère que c'est un langage qui s'exprime et qui emprunte à plein d'autres langages. Ce qui est intéressant pour ma génération, j'ai dépassé la quarantaine, c'est que en tant que personne assignée femme, qui a grandi comme femme, en tant que personne cisgenre, moi je peux observer que les codes vestimentaires et esthétiques de la féminité ont énormément évolué. Alors ça reste très normatif, hein, la pression sur les petites filles, etc. Mais et sur les femmes de tout, les personnes assignées femmes de tous âges. Mais par exemple, ma génération ne portait pas de baskets. Une mini-robe portée avec des baskets, c'est pas du tout la même chose qu'une mini-robe portée avec des talons hauts. Donc c'est une manière de resignifier aussi le langage ou la phrase qui a une tenue. Une tenue vestimentaire, on peut la lire comme une phrase. Sur un axe syntagmatique, c'est l'ordre dans lequel s'agencent les éléments. Je vulgarise à fond là, mais on va dire que c'est le sens de lecture. C'est la manière dont les éléments s'agencent pour former une phrase ou quelque chose qui fait du sens. Donc si je prends une tenue vestimentaire où tous les éléments vont être connotés au féminin, et que j'en prends un et que je le remplace par un élément qui va être connoté au masculin, bah, ça vient resignifier les codes vestimentaires du genre féminin, ça vient construire une autre allure, une autre façon de se déplacer dans la ville aussi, parce que la démarche est plus coulée, on peut courir, ça fait qu'on a un autre rapport aussi à notre propre corps. Moi, je rêverais qu'un étudiant ou une étudiante fasse un jour un mémoire sur la basket, sur trois générations de personnes assignées femmes, parce que je pense que vraiment, l'usage de cette chaussure, qui est aujourd'hui complètement dans le système néolibéral de la fast fashion, hein. Je suis pas en train de faire l'apologie du truc, mais je pense que ça a vraiment changé leur rapport au corps et ça dit quelque chose de l'évolution des codes de la féminité, en fait.
Le genre est un langage. On apprend à l'exprimer par tout un tas de signes, la tenue, les attitudes. Voir le genre comme tel permet de différencier l'expression de l'identité de genre. D'abord, pour celles et ceux qui sont en accord avec leur genre assigné, la question de l'expression semble évidente. Mais quand ce n'est pas le cas, certaines personnes intériorisent leur identité de genre et se conforment à une expression de genre imposée, là où d'autres décident de dire à haute voix leur identité et le montrent à travers l'expression de genre. Enfin, il y a celles et ceux qui bousculent ces questions d'expression de genre. Par la créativité, l'engagement, la fête. Le conteur sans histoire, Drag King, va nous parler de la pratique de subversion des normes de genre qu'est le drag.
Le drag king, c'est une pratique de la subversion des genres par la performance scénique en particulier, mais ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, qui inclut du maquillage, des habits, adopter des comportements qui sont traditionnellement attribués au masculin ou au féminin pour les détourner. Donc le drag king, c'est plutôt masculin, le drag queen, c'est féminin, et après on a les drag queens, queer, genderfuck, qui vont s'approprier, détourner tous ces codes-là dans une perspective un peu plus non-binaire. Alors bon, moi je suis une personne non-binaire, pour autant je fais du drag king au sens où je ne performe que la masculinité, mais je performe une masculinité qui va être plutôt positive, qui va être à la limite d'une masculinité qui se revendique PD, tout en annonçant sur scène que je suis lesbienne, trans et non-binaire. Pour moi ça fait partie du genderfuck, donc ce qu'on appelle aussi l'éclatement du genre en fait, d'une certaine manière. Et tout ça dans une perspective militante pour changer les représentations. Et voilà, pour peut-être apporter un peu de possible dans les masculinités et de positivité.
Tu fais partie aussi des Kings Sauvages. Est-ce que tu veux expliquer ce que tu fais dans ce collectif et qu'est-ce que c'est comme collectif ?
Tout à fait. Alors, les Kings Sauvages, c'est le collectif de drag kings de Lyon. Et il y a quasiment que des drag kings, même s'il y en a certains qui touchent aussi aux drag queer. Et c'est un collectif d'entraide, de piratage du genre, qui tourne beaucoup autour de, des partages des savoirs. Donc, on va organiser des ateliers de drag pour permettre aux personnes de venir tester différentes expressions de genre, justement, à travers le maquillage, déambuler dans la rue en tant que king. On se passe aussi beaucoup des annonces de recrutement pour des scènes, etc. Et on crée des soirées qui s'appellent l'Indomptable. Il y a des performances, scènes ouvertes, voilà. Bah, les ateliers drag king, c'est des moments collectifs, collaboratifs, où il y a un, deux, trois drag kings qui vont initier à l'art du drag king les autres personnes présentes, qui s'inscrivent donc, qui souvent sont des gens qui n'ont jamais fait de drag, mais qui assez régulièrement sont des personnes queer, qui ont déjà un rapport à leur genre qui est plus réfléchi, plus ressenti, plus conflictuel aussi que la plupart des personnes cisgenres hétéros. Et qui veulent tester plusieurs formes de subversion du genre et qui donc viennent le faire en collectif. Nous, on leur prête tout ce qui est maquillage, vêtements. À la fin, souvent, on prend des photos. Il y a une tradition aussi qui est de défiler dans la rue, voir les réactions des gens. Parce que quand tu vas prendre le métro et que t'es 15 drag kings et que personne s'y attend et que ça se voit, tu vois, que c'est du maquillage, que c'est des paillettes, que c'est des... Voilà. Eh ben, les gens ont des réactions hyper intéressantes, quoi. Donc il y a ça. Et puis, des fois, ça s'enchaîne sur des scènes où on propose aux artistes qui viennent tout juste de se kinguer, ce qu'on dit, se kinguer, se transformer, de performer. Alors ça peut être des textes, ça peut être des performances politiques, ça peut être brûler une pancarte avec marqué la manif pour tous, ça peut être danser sur une chanson n'importe qui, Lady Gaga, de performances drag habituelles, quoi.
À ton avis, pourquoi faire du drag?
Je pense que d'abord, il y a une volonté très personnelle et collective de la militance au niveau du corps. C'est-à-dire que c'est vraiment s'emparer de son corps et le détourner de là où on l'attend. Le corps en tant qu'objet dans l'espace public qui subit le regard des hommes cis, etc. C'est de se dire, en fait, je peux le modeler, mon corps. Puis surtout, la première étape d'un atelier drag, c'est pas performer la masculinité, c'est se désidentifier de la féminité. Et donc ça, c'est une des choses les plus importantes, c'est de comprendre en fait ce qui relève du culturel, ce qui relève de la performativité du genre. Donc ça, c'est un concept qui a été notamment beaucoup utilisé par Judith Butler dans Trouble dans le genre, pour dire que le genre n'est qu'une performance, une copie de copie de copie qui n'a pas d'original. Il faut commencer par désapprendre ça, par l'éloigner de soi, et ensuite potentiellement par se réapproprier certains codes. Donc tout ça, c'est des gens, enfin ça va intéresser beaucoup 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 de gens, et notamment finalement des femmes cis-hétéros qui n'ont pas tellement d'autres moyens dans leur quotidien d'échapper à ces dynamiques de genre que en faisant du théâtre, en faisant du drag king. Il y a aussi des personnes qui vont venir ici se mettre une moustache pour la première fois et à qui ça va procurer énormément d'euphorie de genre. Alors ce qu'on appelle l'euphorie de genre, c'est justement ce sentiment d'un coup de concordance avec son genre, un ressenti qui est très fort, qui peut être très variable, et qui vient en fait donner une espèce de joie intérieure. Ça veut pas dire qu'on est forcément une personne trans ou non-binaire quand on a une euphorie de genre vis-à-vis de quelque chose ou quoi, mais ça peut être des indices en fait de transidentité ou de rapport un peu décalé au genre. Quand on pense, par exemple, être une femme et que quand on se voit avec une barbe, on se dit « waouh, en fait, ça, c'est peut-être mon visage aussi ». Et donc, il y a des personnes pour qui, évidemment, ça va toucher à des questionnements plus profonds de l'ordre des transidentités. Et c'est aussi pourquoi on a finalement assez peu de drag kings qui sont des mecs trans. Parce que pour les personnes qui réalisent que c'est leur véritable identité de genre, d'être un homme, ça devient plus compliqué de le performer sur scène, parce que du coup, c'est comme si c'était... sur scène, c'est du théâtre, et quand tu descends, t'es une meuf. Qu'aborde Judith Butler dans Trouble dans le genre, où elle va dire justement qu'il y a un moment où la personne qui regarde pour la première fois un show drag sait sur scène qu'il y a, par exemple, mettons qu'il y a que des drag queens. Dans les drag queens, il va y avoir des mecs cis, des meufs trans, des personnes non binaires, des meufs cis et peut-être même des mecs trans. La personne qui regarde le show ne peut pas connaître l'identité de genre des différentes drag queens, puisqu'en fait, elles performent toutes une féminité. Donc, il y a une volonté de flouter, de brouiller ce truc-là. Et c'est aussi pour ça que c'est important de visibiliser différentes personnes qui ont différentes pratiques du drag et de pas dire les drag queens, c'est des mecs et les drag kings, c'est des meufs, ce qui n'est absolument pas vrai. On ne peut pas savoir le genre d'une personne sur scène. Donc, on peut pas dire ça, c'est typiquement masculin, ça, c'est naturellement féminin, ça se voit que c'est une vraie femme, ça se voit que c'est une fausse femme, parce que ça ne veut rien dire, en fait.
Donc, en fait, le drag, c'est vraiment un outil pour mettre à distance des normes, des stéréotypes qui véhiculent de l'oppression.
Exactement. Et c'est instantané. C'est-à-dire que voilà, quand on est troublé, attiré par une personne qui fait de la performance drag et qui assez souvent va pratiquer par exemple un effeuillage, qui est la technique de se déshabiller au fur et à mesure de la chanson sur laquelle on danse et d'enlever un vêtement, et à chaque fois le public va acclamer, etc. Et ben forcément ça va créer une sexualisation de la part de la personne qui performe, qui est volontaire, et qui du coup va être là aussi pour troubler le public, pour attiser un peu les curiosités. Et à partir de là, bah, ça devient très intéressant, parce que le public est véritablement acteur de cette performance, et entre dans des dynamiques de genre dont il ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Et c'est la personne qui fait du drag sur scène qui décide de tout. C'est aussi pour ça que c'est un faux argument de dire, en fait, par exemple, les drag queens sont quelque chose de l'ordre du patriarcat, parce que elles entretiennent une culture de la sexualisation des corps féminins. Attention, qui sexualise les corps féminins? Si c'est elles qui montent sur scène et qui décident de faire du pole dance en culotte, mais c'est parfait. Elle est complètement maîtresse de son corps, elle fait tout ce qu'elle veut, et c'est magnifique, et c'est de l'empouvoirment, et c'est de la performance, et c'est superbe. À l'inverse, si c'est des personnes qui sont dans la rue et qu'on va siffler, par exemple, les personnes sifflées sont sexualisées par la personne qui siffle de manière totalement involontaire. Et là, c'est du sexisme, il faut bien séparer les deux, quoi. Qui est le sujet? Qui est l'objet? Quand il n'y a que des sujets, c'est-à-dire une personne qui est sur scène, qui s'auto-subjective en performant quelque chose et en choisissant exactement quel vêtement elle enlève ou quel vêtement elle garde, comment elle se sexualise ou pas, quel move elle va faire ou pas, et bien forcément, le public est sujet aussi. C'est aussi respecter le public, et le public ne peut que respecter l'artiste qui est sur scène.
Les normes de genre sont indissociables des dynamiques de sexisme. N'être pas conforme à ces normes entraîne des discriminations. S'y conformer, à l'inverse, peut être oppressant. Comme on l'a vu avec Stéphanie Kuhner, le conteur sans histoire et Léo, l'expression de genre est un enjeu central dans la lutte contre le sexisme, l'homophobie, la lesbophobie, la transphobie, et peut être utilisée comme un outil d'émancipation. Pour conclure cet épisode, j'ai envie de vous partager un poème du conteur sans histoire, car il célèbre l'exploration de l'expression de genre, en espérant que ces mots résonnent chez certains et certaines.
Les deux pieds dans le sol, pieds de nez dans l'os, la binarité s'indigne quand l'habit mérité scintille. Ton culot est sincère, strappe tes atouts et bats les cartes, les langues claquent. Ah, tu as le beau rôle. Quitte ton placard, tu as la parole. Broie le vieux monde dans ta fine bouche, croque ses clichés, bois son oppression, brise entre tes dents la haine en fines particules et crache des paillettes sur le devant de la scène. Emmoustache-toi, barbe postiche, pas de potiche, change de peau, triche. Tu t'en couires à vue d'œil. Monte en grade, prince, pars à la conquête de la scène, monte en drag king. Exhibe tes blessures de guerre, pare-toi de tes plus beaux bleus. On t'a crevé le cœur, fais-en jaillir son encre rouge, tu es un drag haut en douleur. Éclabousse de couleurs la foule en folie. Ce soir, c'est carnaval, mes amis. Fraude et race cassent les codes, décloisonnent, décortiquent, dégainent, déglinguent et crient. Public,
Euphorique des genres dérangés, préparez-vous pour le royal passage.
Si vous étudiez à l'université Lyon 1, vous pouvez saisir le dispositif d'écoute et d'accompagnement des témoins et victimes de violences et discriminations en vous rendant sur le site signalement.univ-lyon1.fr.
Retrouvez Amphi25 tous les 15 jours sur vos plateformes de podcast préférées. Ce podcast a été conçu par la mission Égalité-Diversité de l'Université Lyon 1.